Le 13 mai 1958, sur la scène de l'Alliance française, un débutant accompagné par son père au piano est ainsi présenté.
Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un jeune qui n'est pour ainsi dire pas connu, mais je suis certain pour ma part qu'il ne tendra pas à l'être et comment. Il s'appelle Serge Gainsbourg et je vous engage à retenir ce nom.
Voici le poinçonneur des Lilas. Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
Un mois plus tard, au studio Philips du boulevard Blanqui, le même Gainsbourg enregistre ceci.
Je suis le poinçonneur des Lilas.
Alors évidemment, ça sonne beaucoup mieux. C'est qu'entre-temps, Gainsbourg a croisé le chemin de grands musiciens de jazz. Et c'est cette histoire qui est racontée dans un livre monumental, le Gainsbook, qui nous fait assister à tous les enregistrements studio de Serge Gainsbourg, à l'élaboration musicale de toutes ses chansons et rend justice aux musiciens qui ont fait une bonne part de son succès. Sébastien Merlet, Christophe Jeudin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé cette somme qui paraît chez Segers, des années de travail et de recherche. Quelle était votre curiosité de départ?
Je pense que quand on s'intéresse à la musique en France, le chemin de Gainsbourg est incontournable. Il commence en 58, c'est l'arrivée de la stéréo, les micro-sillons. Il est mort en 1991, c'est l'année où la dernière presse de 45 tours a fermé en France. Ouais. À lui seul, c'est un symbole de la variété française, à lui tout seul.
Mais autant qu'un hommage à Gainsbourg, c'est un hommage aux musiciens dont le nom n'était jamais mentionné sur les pochettes, au moins dans les années 60 et 70, et à la création musicale, on peut le dire comme ça?
Oui, c'est ce qui nous a motivés, hein. c'est cette frustration de ne pas savoir qui jouait.
Pour le poinçonneur qu'on vient d'entendre, il faut citer, donc on entend hautbois, cuivre, batterie.
Absolument, alors le duo rythmique basse-batterie, c'est Pierre Michelot à la contrebasse, et
Christian Garros
à la batterie, bravo.
Qui ont rejoint ensuite Jacques Loussier pour le trio Playback.
Absolument, Playback.
Des grands musiciens, oui.
On entend aussi Raymond Guyot, qui est un peu notre seul témoin de ces séances, mis à part Alain Goraguer, le chef d'orchestre, qui dirige l'orchestre. C'est un peu, malheureusement, aujourd'hui, le seul qui est encore en vie.
Flûtiste. Et Alain Goraguer, évidemment, qui joue un rôle primordial sur toutes les premières années Gainsbourg.
Oui, Alain Goraguer, c'est le lien entre Boris Vian et Gainsbourg, le lien entre le jazz et la chanson, et c'est lui qui a véritablement accompagné Gainsbourg, on va dire de 58 à 64.
Alors c'est une somme qu'on ne peut que picorer par petits morceaux. On va avoir quelques exemples de votre travail. 4 ans plus tard, un tout jeune pianiste est enrôlé par Goraguer. Il vient de se mettre à l'orgamande, un son tout neuf à l'époque.
Des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là, comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond.
L'orgue d'Eddie Lewis sur cette Intoxicated Man, il est quasiment à ses débuts. Hein.
À ma connaissance, c'est sa toute première ou une de ses toutes premières séances à l'orgue, en studio.
Alors, difficile de savoir ce qui appartient à Serge Gainsbourg, enfin ce qui lui revient et ce qui revient à ses orchestrateurs arrangeurs. C'est une sempiternelle question pour celui qui aime Gainsbourg. Christophe
oui,
Jeudin.
Gainsbourg a travaillé avec beaucoup d'arrangeurs. Goraguer, on l'a cité, plus tard Michel Colombier. Ensuite, il y a eu Alain Dockshaw en Angleterre, Jean-Pierre Sabar en France et Billy Roche aux États-Unis. Enfin, tous ces gens-là. Et bien sûr, Joko de Vanier entre Colombier et Dockshaw.
Pour nos Melody Nelson, évidemment,
bien
notamment.
Sûr. Mais voilà, c'était une sorte de contrat tacite. Gainsbourg avait son nom marqué sur les pochettes. Les arrangeurs aussi étaient cités en plus petit. Mais c'était comme ça. C'était un deal qui était vraiment entre l'arrangeur et Gainsbourg, et donc les arrangeurs, à l'époque, ne s'en plaignaient pas.
Mais à chaque fois, c'est ça qui est passionnant dans votre Gainsbourg, vous cherchez à savoir qui a eu l'idée, qui l'a exécuté. Alors, on va prendre un exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait la réponse. Cet exemple. « gimmick ultra samplé, évidemment. Requiem pour un con, la bande originale du Pacha. Alors, c'est qui ?
Alors, l'histoire de ce breakbeat est très 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 complexe, mais à l'arrivée, l'exécutant, celui qui tape sur les fûts, s'appelle Pierre-Alain Dahan, qui est un très grand batteur de séance, qui à l'époque est un peu au début de sa carrière en fait. Mais en réalité, le breakbeat vient pas de lui. Lui n'est vraiment qu'exécutant, et il vient même pas de Gainsbourg, ni même de Colombier. Mais sur une suggestion de Lautner, le réalisateur du film, qui avait un copain qui s'appelait Jacques Hiro, et lui-même batteur, pas du tout dans le circuit des studios, batteur de plutôt de concert, batteur de terrain on va dire, qui nous a expliqué comment il a préparé une petite maquette à la demande de Lautner de plusieurs boucles rythmiques, oui, dont celle-ci, pour habiller le film.
Ouais, Lautner voulait un gimmick qui rythme son film de pan-pan. Il appelait ça un film de pan-pan. Il fallait trouver un rythme de batterie qui pourrait suggérer les coups de pistolet. Et c'est comme ça qu'est né ce breakbeat légendaire.
Extraordinaire, et c'est donc un quasi inconnu qu'on doit ce gimmick ultra célèbre. On sait quand même que Gainsbourg avait des idées bien arrêté, et on a parfois des séances de travail, des comptes rendus de séances de travail. On le sait notamment pour un autre de ces gimmicks parmi les plus célèbres. Initials Baby, la séance de Gainsbourg de travail avec son arrangeur anglais Arthur Greenslade a été filmé, et on sait que Gainsbourg, il sait ce qu'il veut. Il arrive avec une idée d'orchestration. Hein.
C'est-à-dire qu'il a des idées absolument précises sur, ouais, sur la forme de ses chansons. Même dans la façon qu'il a de les pianoter et de les chanter, il y a déjà la forme est déjà embryonnairement, elle est déjà là.
Gainsbourg dit à son arrangeur, je veux des violons. Greenslade dit combien ? 4, 5, 6, non, 8 violons. Avec écho, et c'est ce qui s'est produit ensuite en studio d'enregistrement.
Exactement.
Votre livre, encore une fois, une somme 450 pages, le Gainsbourg est accompagné d'un triple album qui paraît chez Universal avec quelques morceaux de bandes inédites, des mixages alternatifs ou des prises alternatives. Une piste musicale ici ou une piste voix là.
Si, Sex and Song. Si, Sex and Song. Si, Sex and Song.
Voilà, Gainsbourg de plus en plus présent avec ses choristes si, de Si, Sex and Son.
Ouais, alors là, on est en 1978. C'est assez surprenant de l'entendre se planter d'ailleurs à la fin de la prise.
Ouais.
Et dire vraiment qu'il n'arrive pas à rester dedans. Il est...
Je le sens plus.
Voilà, il le sent plus exactement. Oui, c'était amusant. C'était vraiment un interlude hein, sur la compilation.
Le Gainsbourg paraît chez Segers. Merci beaucoup Sébastien Merlet et Christophe Jeudin d'être venus nous en parler.
Merci.
Je sens plus la merde, je décroche.